Bonjour. Il y a tant de façons de parler du vin et d'écrire à son sujet. Ils sont presque innombrables en vérité les ouvrages qui traitent du sujet au sens large et prennent une place désormais importante des tables des libraires au rayon gastronomie. Les guides à l'ancienne ont tendance à disparaître, qui se résument bien souvent à des comptes rendus de dégustation assemblés sous forme de catalogue. Un des ressorts de différenciation consiste à donner une note à chaque cuvée et millésime pour proposer aux lecteurs et lectrices une hiérarchie censée les aider à orienter leurs achats. Les livres d'expérience et de vécu, comme le magnifique et souvent cité ici « Mes aventures sur les routes du vin » de Kermit Lynch, le caviste américain qui dans les années 70-80 parcourt les routes de France et d'Italie à la rencontre du vin authentique. Le journaliste Bernard Pivot et l'auteur d'un remarquable dictionnaire amoureux du vin, le romancier Daniel Picouli, dernièrement, a publié « Les larmes du vin » dont le point de départ est l'invitation qu'il reçoit à devenir un chevalier du Tastevin en Bourgogne. Les bandes dessinées, livres d'illustrations, romans graphiques ne sont pas en reste. Qu'il s'agisse de nous conter l'histoire du vin à travers les millénaires, c'est le propos de l'excellente somme de Benoît Sima, illustrée par Daniel Cazanave, l'incroyable histoire du vin, ou nous faire rire avec les aventures des trois héros de Michel Tolmer, Riri, Fifi et Glouglou en trois tomes hilarants et tendres. Plus récemment, Alès Fotorino, qui sera notre invité dans un prochain épisode, nous compte dans In Vino Femina et à travers le dessin de Céline Pernaud-Burlet, c'est son propre parcours dans le monde du vin sur fond de dénonciation du sexisme ordinaire qu'elle y a rencontré. Il y a tous ces livres et puis il y a les ouvrages qu'on a envie de classer à part, dont les auteurs investissent un médium qui peut sembler presque anachronique à l'heure du numérique triomphant, l'art de l'affiche, qu'il combine en outre avec talent, avec une autre science qui nous projette directement dans l'espace et dans le vignoble, la magie des cartes. Ce 95e épisode s'intitule « La carte des vins, s'il vous plaît ». Bienvenue dans la Terre à boire. On se retrouve, je suis en compagnie de Laurent Delceau. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et on est toujours au studio Module, Portanière, à Paris, un endroit merveilleux pour enregistrer des podcasts. La fenêtre est ouverte parce qu'il fait un peu chaud, mais ça va, on est bien, on a des jolis vins. Et puis on a un sujet dont on a envie de parler depuis longtemps. C'est une maison d'édition qui s'appelle La Carte des Vins, s'il vous plaît, et qui fait des choses assez merveilleuses, en tout cas que nous, on aime beaucoup. Et pour en parler, on a un des patrons, un des créateurs de cette maison d'édition. Bonjour, Jules Gobert-Turpin.
Bonjour, Romain. et bonjour à l'équipe.
Et Laurent, qui est avec moi, ouais. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, tu as créé avec tes petits camarades que tu vas citer pour que je n'oublie personne.
Alors, donc oui, c'est une aventure qu'on a créée tout d'abord avec Adrien Grandpuis-Bianchi. On fait dans les noms très courts.
Oui.
Voilà, on a choisi des noms.
Alors, toi, tu en as deux, mais lui, il en a trois.
Ouais, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné là-dessus, voilà. On a fait nos études ensemble, nos études plutôt dans le graphisme à Bordeaux, et donc ben voilà, il y a tout est dans le titre, graphisme à Bordeaux. Donc après, on a voulu se spécialiser dans les produits du terroir, dans la gastronomie, et donc le vin est rapidement arrivé sur la table, et on a voulu voilà, créer un projet qui rassemblait nos deux passions, le graphisme et le vin, pour créer des supports, des affiches, des guides qui soient visuels, puisque voilà, donc quand on s'est intéressé au vin, on trouvait que ça manquait, il y avait beaucoup de livres, mais que ça manquait un petit peu de support graphique, de choses voilà, assez visuelles qui plaisent pas mal aujourd'hui, qui permettent des fois de bien se rendre compte d'un sujet. Et dans le vin, la chose qui est la plus visuelle, bah, c'est les cartes graphiques, on aime beaucoup. Et donc, on s'est dit que ce serait intéressant de revisiter un peu les collections de cartes viticoles. Et donc, voilà, on a commencé cette aventure en 2015. Et on continue de créer des cartes, d'en publier et de toujours à la recherche de la dernière carte, que ce soit des cartes de sol, des cartes d'appellation, des cartes de domaine. Donc voilà, et il y a aussi Charlie Garros qui nous a rejoint très rapidement dans l'aventure, qui est un ami aussi. Et donc on avance là-dedans depuis maintenant 7 ans.
Tu fais bien de le préciser, ça a commencé avec les
cartes, parce que les auditeurs et les auditrices peuvent connaître aussi les livres que vous avez publiés oui. Aux éditions Marabout, qui sont des, l'Atlas des vins de France, si je ne me trompe pas sur le titre. Oui. Il y a aussi l'Atlas des vins du monde, qui sont des beaux livres hein, qu'on peut offrir à Noël, qui sont vraiment des ouvrages assez voilà, très qualitatifs. Mais au départ, donc, c'était plutôt des posters, en fait. Et c'est souvent, c'est des cartes qu'on voit. Ben voilà, vous êtes, je pense, assez représenté chez des cavistes, dans des bars à vin, dans des restaurants, parce que voilà, il y a... Comment on définirait l'angle, le parti pris graphique, puisque tu es un graphiste? Moi, je vais te donner mon sentiment. Les premières fois que j'ai vu ces cartes, d'abord, vraiment, je les trouve très belles, mais il y a une ligne éditoriale qu'on retrouve d'une carte à l'autre. Je dirais qu'il y a un mélange de cartes à l'ancienne un peu qui fait penser un peu ouais. à des cartes d'école qui illustraient tel ou tel sujet de bio par exemple et puis voilà des choix de tonalité de couleurs. On est dans des pastels, mais c'est très très joli et pour le coup assez moderne. Est-ce que je résume un peu le parti pris okay. graphique?
Non, c'est très bien résumé. En effet, nous, on aime beaucoup. Au début, c'était les cartes marines qu'on aimait beaucoup. Donc, on a reçu des codes des cartes marines, des cartes des côtes qui sont assez jolies. Et après, pour apporter un peu plus de vie et comme il fallait mettre des zones, en effet, on s'est inspiré. On aimait beaucoup les cartes, les vieilles cartes Vidal Lavlache.
Voilà, c'est ça. Donc, j'avais pas le nom.
Et qui sont des cartes, voilà, qui sont magnifiques, avec des taches de couleurs. Où ils en ont fait sur plein de sujets. Donc en effet, il y a cette inspiration là. Et puis après voilà, le côté, on voulait apporter un côté assez jeune avec des couleurs pastel. Et des fois, ça fait un peu aussi coloriage. Ça fait des choses assez souvent les cartes des vins, elles sont assez sérieuses avec des couleurs assez sombres. Là, nous, il y a du rose, du jaune, du vert pastel. Enfin, alors on a voulu mettre des choses qui pètent un peu et qui représentent un peu notre vision du vin et le tournant qu'a pris le vin depuis maintenant. Plusieurs années, voilà, qui se déride un peu, débride et plus dans la diversité, que ce soit des styles, des couleurs ou du public qui s'intéresse au vin.
Je vois sur votre site internet, ça commence par les meilleures ventes. Alors, j'allais te poser la question, mais je vais le dire. Je ne sais pas si le top qui est sur le site internet représente effectivement les meilleures ventes, mais il y a évidemment la classique, la carte des vins de France. Donc, c'est la carte de France avec. Les grands terroirs viticoles, sachant que évidemment il y a aussi la carte qui zoome sur chacun des terroirs avec toutes les appellations à l'intérieur, mais là c'est la carte générale. Il y a les arômes du vin également, et là on est dans un visuel très différent sur fond bleu avec cette rosace là qu'on voit parfois qui fait un peu tout le tour
La roue des arômes.
La roue des arômes avec des noms parfois compliqués. On retrouve les cépages et leurs arômes dominants et le quatrième, je ne vais pas tous les faire hein, mais on a les robes du vin et c'est aussi là un parti pris graphique assez différent et beau, c'est comme des taches de peinture qui montrent les différentes couleurs, les différentes robes qui va évidemment du rouge violacé presque noir jusqu'à un blanc complètement diaphane transparent.
Alors moi, j'ai envie de dire, il faut que vous arrêtiez, hein, parce que là, il y a trop d'affiches. Quand j'ai ouvert mon bar à vin en 2017, vous aviez les arômes des principaux cépages, vous aviez la carte des vins de France, vous aviez aussi les étapes de dégustation. Ça, je me les suis appropriées dans le bar. Elles ont une bonne place. J'en vends encore un petit peu quelques-unes, parce que j'en avais acheté quelques-unes à l'époque pour revendre. Mais là, il y en a beaucoup trop. J'ai pas assez de murs pour les mettre toutes.
C'est ce qu'on nous dit, ouais. Des fois, il y a des personnes qui nous disent « j'ai plus de place », donc nous, on pensait de les mettre au plafond.
Bonne idée. En fait.
Mais on ne pense que aux murs, voilà, aux murs verticaux, mais le plafond, voilà, vous avez tout un support. Souvent, le plafond, il y a de la place, c'est assez joli. En effet, des fois, on se dit « c'est bon, là, on a fini, on a fait le tour, quelque part, on se dit, même les gens nous disent « mais bon, qu'est-ce que vous allez faire après ?» Genre, voilà, vous n'allez pas faire ça toute votre vie. Et au final...
Il y a toujours un truc nouveau.
En fait, ça, il y a toujours un truc du nouveau et souvent il y a des cartes aussi spécifiques qui plaisent. Là, par exemple, on a sorti une carte des lieux-dits et des terroirs de Châteauneuf-du-Pape. Donc, c'est une carte qui est quand même très spécifique et qui plaît. Il y en a qui partent à l'étranger. Il y en a qui partent chez des vignerons, chez des cavistes. Alors c'est évidemment un peu plus voilà, un peu plus ciblé, et ça plaît parce qu'il y a des voilà, il y a des amateurs, des personnes qui cherchent des choses très précises. Si on a fait les climats de Bourgogne, donc c'est une carte vraiment en long,
c'est magnifique,
1,50 m de long avec voilà, avec tous les climats de la côte de Nuits et de la côte de Beaune. Il y a encore plein de choses à faire sur plein de terroirs. Il y a aussi après à l'étranger, en fait, on a des cartes qui sont très définies en France. Il y a des pays, et ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des pays qui sont en train de faire ce travail de délimitation de terroirs. Ils veulent aussi avoir des crus, des premiers crus, des climats, que ce soit en Italie, en Espagne, au Portugal ou aux États-Unis. Voilà, ils ont bien compris que c'était comme ça que les grands vignobles se structuraient. Donc, l'identité d'un vignoble, voilà, ils ont vu ce qu'avait fait la Bourgogne. Et en effet, alors tout le monde ne pourra pas faire les mêmes vins que la Bourgogne. Mais en fait, ils voient que c'est l'idée de micro-terroirs. Ça amène un certain prestige.
Est-ce que vous êtes un peu inspiré de ce que fait Madeleine Puckett aux États-Unis? Parce que pour moi, vous êtes le pendant français de tout le travail graphique qui est magnifique de Wine Folly. Et je pense systématiquement à ce parallèle quand je vois ce que vous faites.
Ah ben ça reste quand même une référence. Elle était là avant nous et ça reste en effet notre. Je ne sais pas si on peut parler de concurrence parce qu'elle est très sur les États-Unis. On ne se retrouve pas dans les mêmes endroits, tout ça. Mais en tout cas, elle a fait un travail en effet de cartographie. Elle rentre moins dans les détails, c'est vrai qu'elle n'a pas ce travail de détails, mais en termes de région et de pays, c'était la première à cartographier avec un style aussi moderne tous les pays, enfin beaucoup de pays viticoles. Donc oui, on reste.
On sent la patte du graphiste, quoi, quelqu'un qui est rentré sur ce secteur avec l'œil du graphiste, ce qui est super original et ce que vous avez aussi. Développer quoi.
Quelle est la.
Oui, exactement, parce qu'il me semble qu'elle est aussi graphiste plutôt à l'origine.
Oui.
Et qu'après, elle est arrivée dans le vin, donc c'est un peu comme nous.
Oui, oui, tout à fait.
C'est plus le graphisme qui nous a fait rentrer dans le vin après.
Quelle est la toute première carte que vous avez dessinée?
La toute première, on en a fait. Alors, je crois que c'est le. La toute première, on a fait un projet sur les vins de Bordeaux et en même temps, on faisait celle de la Loire. Donc on avait Loire et Bordeaux, puisque les deux, on travaillait en parallèle sur ces deux cartes. Parce qu'au début, nous, notre première idée, c'était de faire, on voulait faire une sorte de carte Michelin du vin. Et donc, en fait, on voulait faire des cartes dépliantes, avec des adresses, avec des choses comme ça, qu'on puisse retrouver. Donc on voulait avoir quelque chose d'assez assez rétro. Voilà, on voulait retrouver ça même dans les stations-service des crues, genre à Saint-Émilion, tout ça, voilà, c'est un peu le délire. Après, on s'est rendu compte que le côté de carte dépliante, ça faisait très prospectif, c'est très commercial, et que les gens cherchaient plus un poster. Donc au début, on a commencé à faire des cartes dépliantes, et après, on est allé sur les posters affiches plutôt encadrés. Donc on a commencé par nos régions, parce qu'Adrien vient de la Loire, on a fait notre site à Bordeaux, après on a fait l'Alsace, après la Bourgogne, le Languedoc, voilà, on a un peu fait les grosses régions françaises. C'était les premières cartes qu'on a fait.
Et concrètement, comment vous travaillez? Alors, vous partez de quel matériel sur la dimension purement géographique? Vous partez de quelle carte?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, en France, on a la chance d'avoir accès à des cartes des syndicats ou voilà, des groupements de vignerons qui sont assez précis, ou des cartes qui sont tout simplement de l'INAO. Bon ouais, ça fait bien. Après, donc en France, on a des choses qui sont assez précises. Donc, on va vraiment se baser sur ces zones. Il y a des cartes qui sont très précises qui vont nous servir de modèle. Par contre, quand on va dans d'autres pays, les zones sont beaucoup plus floues. C'est un peu moins carré et des fois, ça relève un peu de l'enquête. C'est-à-dire qu'on va croiser plusieurs cartes. On va utiliser des géoportails ou même des fois Google Maps en fait pour tout simplement aller voir où s'arrêtent les parcelles, où est-ce que commence la forêt. Quand on a fait notre atlas des vins du monde, il y avait quand même des pays qui étaient voilà, bien moins connus pour le vin que la France. Donc là, on va rechercher voilà, avec des domaines hein, qui vont nous donner des informations. Donc voilà, on recoupe pas mal d'informations, mais souvent c'est avec les syndicats, voilà, les cartes officielles de l'INAO qu'on a dans les zones viticoles et les noms.
Est-ce que des appellations vous commandent des cartes?
Alors ouais, on travaille en ce moment avec quelques appellations avec qui on est en échange pour leur recréer leur carte, mettre à jour leur carte de leur vignoble. Au début, c'était vraiment notre idée. On voulait rencontrer ces organisations, mais on avait un peu rien à montrer. On n'avait pas vraiment notre réputation. Je pense qu'ils nous avaient pris pour des étudiants, voilà, c'est pas trop sérieux. Et là maintenant, c'est voilà, on arrive à échanger avec eux, on les rencontre, ils voient aussi nos travaux, nos livres, donc ils nous contactent quand ils ont besoin de remettre à jour la carte de leur appellation. Donc on travaille à quelques appellations.
Une question que j'ai pas posée sur l'instant, mais quand vous avez produit ces premières cartes là, Bordeaux, la Loire, quel a été l'accueil? Ça a tout de suite été le succès. Une fois que vous êtes passé de la carte dépliante à l'idée d'un poster beaucoup plus qualitatif, quelle a été la réception? Qui vous a dit oui tout de suite?
Mais en fait, dès le début, nous on avait commencé voilà avec cette carte dépliante des vins de Bordeaux, et on est allé voir quelques acteurs, donc il y avait la Cité du Vin n'était pas encore ouverte, donc on était allé au Musée du Vin et du Négoce à Bordeaux, et donc on avait rencontré le directeur, on lui avait présenté des maquettes, et il avait vraiment flashé, il nous avait dit, ça les gars, vous tenez quelque chose, allez-y à fond, enfin c'est vraiment un produit qui peut plaire dans le tourisme, c'est un peu, voilà, c'est lui qui nous avait quand même bien poussé, qui nous avait validé l'idée, et après on avait réussi à les faire commander aussi par des libraires locaux, des casistes, voilà, on avait senti qu'il y avait quand même quelque chose. Sur le produit, le côté carte un peu quali, il y avait un bon accueil. Et après, il a vite fallu développer la gamme, puisque des calistes de certaines régions veulent évidemment la carte de leur région.
Si on parle un petit peu business, économie, d'abord c'est une entreprise que vous avez créée. Comment ça s'est passé, le développement économique? Vous en êtes où aujourd'hui? Vous êtes combien à travailler? Je ne sais pas si tu veux nous donner des notions de chiffre d'affaires, ouais. Mais ça ressemble à une success story, cette histoire.
Bah, nous, en tout cas, dans ce domaine-là, les gens se rendent, quand on dit on fait des pertes des vins, des fois les gens après me disent, mais d'accord, mais qu'est-ce que vous faites vraiment?
En vrai.
Ils ont l'impression que c'est plus une passion. Oui, moi aussi, je collectionne des pertes. Mais... Non, mais les gens se rendent pas compte, en fait, vraiment. Et donc, il y a vraiment un marché, qu'il y a vraiment des gens qui sont intéressés. Nous, aujourd'hui, on est quatre, à plein de temps, à travailler. Et donc, la société, voilà, on l'a créée en 2015. Et aujourd'hui, on travaille avec près de 150 revendeurs en France qui soumettent nos cartes. Et là, on travaille aussi avec des distributeurs pour créer des collections aussi à l'étranger, notamment en Italie, aux États-Unis, où il y a quand même voilà un gros tourisme viticole et pas mal de vignobles à cartographier. Donc ouais, il y a du boulot et franchement, on s'en dit pas.
Les revendeurs dont tu parles, c'est des libraires, c'est des cavistes, c'est
Ouais, c'est tout, ouais, c'est ça. C'est libraires, cavistes, des concept stores aussi où les gens vont chercher des idées, des lieux du vin aussi. C'est-à-dire, là, il y a par exemple la Cité de la Gastronomie qui vient d'ouvrir à Dijon, la Cité du Vin, la Ténaum à Beaune, qui est une librairie cave assez immense. Voilà, c'est des lieux où on va trouver des objets, soit plus sur l'édition, la librairie, soit plus sur le vin, donc ouais, principalement caviste et libraire.
Et de passer des affiches et des cartes, évidemment, au livre.
Les atlas.
Ça s'est fait comment? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, oui, ok, il y a des cartes dans ces atlas, mais il y a aussi du texte. Comment ça s'est fait?
Ben, du coup, on avait du coup ce projet là au début là de carte dépliante. On avait réussi à la. On savait que bon, c'était important pour nous d'être on préférait dans peu d'établissements, mais des gros. Et donc on avait connu la librairie gourmande, qui est à Paris, qui est quand même une institution de l'édition culinaire, qui est une super librairie.
Bien sûr.
Métro Bourse.
J'y traîne un peu trop souvent. Ouais.
Voilà. Alors ça aussi c'est
c'est dangereux.
De sortir avec plein de bouquins sous les bras, et je suis allé là-bas. Et donc, on avait réussi à être distribué chez eux, et forcément, l'éditeur de Marabout de l'époque, Emmanuel Levallois, traînait beaucoup, évidemment, dans cette librairie, puisque c'était là qu'il pouvait repérer aussi des projets, des sujets. Et du coup, il avait découvert notre carte en librairie, et il nous avait contactés pour nous proposer de faire un livre avec plein de cartes sur le vin. Il avait cette idée de faire un atlas des vins en voyant nos cartes. Ça ne levait plus, donc ça c'était en 2016. Et après, c'est nous qui avons aussi géré toute la partie rédaction. Donc on s'est quand même bien formé, on a énormément lu, énormément dégusté, rencontré, faire des salons, faire plein de choses qui nous permettaient d'avoir de l'information pour écrire ces livres. Et donc oui, en effet, on est passé d'un projet très graphique à un projet plus éditorial où il fallait du contenu vérifié. Et nous, on s'est régalé à faire ça. C'était pareil, il n'y a plus une recherche d'informations et de chiffres qui sont pas toujours simples, mais on s'est régalé à parler de toutes ces régions viticoles, de l'histoire de chaque pays. Et ça nous a permis aussi de former très rapidement sur les civilisations du vin et toute cette culture qui est incroyable.
Donc c'est vraiment vous qui vous êtes penché sur ce projet éditorial. C'est-à-dire que vous n'êtes pas juste support carte du bouquin, vous avez aussi concocté les textes.
Exactement, on a tout fait de A à Z, on leur a livré un livre. D'ailleurs, normalement, les éditeurs, ils travaillent avec un auteur qui leur livre des textes sur un fichier, sur un fichier classique. Nous, on leur a livré un livre,
clé en main.
Donc, ils ont presque pas tué, clé en main. Donc, ils ont bien aimé. Donc, c'est pour ça qu'on a bien, on a pas mal rebossé avec eux. Après, on a commencé avec un atlas des vins du monde.
Oui.
Où on voulait vraiment parler de tous les pays du cœur. En tout cas, une bonne partie, j'ai 56. On est quand même parti sur des pays, la Thaïlande, l'Éthiopie, Madagascar, enfin des endroits quand même.
C'était très ambitieux, très
oui. Pour le vin. Et ensuite, on s'est dit, on va continuer sur les tours du monde. nous, on est très intéressés par tous les sujets autour de la boisson. Et on s'est dit, il y a des livres sur le rhum, il y a des livres sur le vin, il y a des livres sur la bière, mais il n'y a pas un livre qui cumule un peu toutes ces boissons. Il se trouve que les amateurs de boissons, souvent, passent d'un alcool à l'autre. Hein. On n'est pas que vin ou que bière ou que spiritueux. Donc, on s'est fait un tour du monde en 80 verres. Et donc, on a sélectionné 80 boissons iconiques de chaque pays. Donc, il y a la bière belge, il y a le saké du Japon, le mezcal au Mexique. Évidemment, il y a des vins. Mais c'est assez mélangé. On a présenté, pareil, avec des cartes, avec des histoires, 80 boissons dans un livre qui est sorti en 2018. Et là, plus récemment, on est revenu sur la France, parce que notre atlas des vins du monde, il était bien, mais il manquait quand même, il y avait peu de place sur la France, parce qu'il fallait faire de la place sur les autres pays. Et on avait des belles cartes qu'on voulait mettre dans un livre. Donc là, on a fait vraiment un livre que sur les vins de France. Donc il y a 200 pages avec vraiment toutes les appellations, Pixin, Saint-Loup, Sancerre, Muscadet, les terroirs de la Loire, toutes les appellations de Bordeaux, enfin voilà, et évidemment les climats, on est rentré dans quelque chose de très détaillé et qui est tout récent, qui est sorti en octobre dernier.
Tu peux nous donner quelques chiffres? Ça a été des succès en librairie, ces atlas. En tout cas, on les a vus, on les a vus sur les tables des libraires.
Dans le domaine du vin, c'est des bonnes publications. Ben, le premier livre, il a été traduit en 6 langues, donc il a été traduit en chinois, en allemand, en espagnol, et donc il a été traduit et distribué dans plusieurs pays. Et le dernier, en France, il est très bien parti. Là, c'est déjà, on a passé la barre des 15 000 exemplaires en quelques mois. C'est un très bon début dans ce domaine-là de la gastronomie du vin. C'est un bon début. Il est vachement bien accueilli en librairie. Voilà, vu qu'il y a un sujet très français, ça plaît quand même beaucoup. Les gens s'intéressent au vin du monde, mais voilà, on reste quand même aujourd'hui sur une consommation. Je crois qu'on consomme 95% de vin français quand même en France. On aime bien des fois s'écarter, mais il faut dire c'est de quoi faire dans le pays. Donc,
Je te confirme que 15 000, c'est déjà pas mal, même pour de la littérature, c'est déjà des très, très beaux scores, hein. pas seulement dans le domaine de la gastronomie. Hein.
Ouais. C'est le domaine, on profite aussi de ce rayon un peu gastronomie, vin spiritueux qui a énormément grossi au cours des dernières années. Les rayons, livres de cuisine, c'est devenu. Devenu énorme. Et au final, dans le vin, il y a des sorties. Il y a beaucoup de sorties, mais ils sont pas toujours diffusés. Et je pense qu'ils profitent aussi de la connaissance des autres. C'est ce côté un peu série. C'est le troisième, et donc les libraires le connaissent, et donc ils mettent un peu en avant. Je pense que ça aide aussi d'être dans une collection.
Il y a un paradoxe, c'est que il y a encore pas si longtemps, les grosses ventes dans l'univers du livre sur le vin, c'était des guides. C'était le fameux guide Hachette du vin, le guide Bétane de Sauve, ça. Les guides pour aider le consommateur à choisir les vins qu'il va acheter. Ces publications-là, elles ont beaucoup moins aujourd'hui d'essor qu'elles pouvaient en avoir, parce qu'il y a Internet, parce qu'il est beaucoup plus facile de trouver des informations sur le vin. Et on a vu se déployer une autre type d'offre.
Je pense que ça traduit vraiment la dimension culturelle que prend le vin au fil des années. Moi, j'ai été très marqué en allant cet été en Espagne. qui est quand même un pays viticole magnifique, qui a des régions viticoles un peu partout, d'essayer de trouver justement, et alors là je passe une commande, hein, Jules, d'essayer de trouver un atlas des vins d'Espagne, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup et dont je connais assez mal les vins, et je cherchais quelque chose qui aurait pu m'apporter cette dimension d'apprentissage sur les vins espagnols. Et en fait, je n'ai trouvé que des atlas dits internationaux, enfin des livres de référence qui ont été édités la plupart du temps dans les pays anglo-saxons, ou bien des guides, comme tu l'indiques, Romain, c'est-à-dire l'équivalent du Hachette ou de la RVF pour aller chercher tel ou tel domaine. Et je suis resté sur ma faim. Et je pense que le marché espagnol, typiquement, n'est pas encore, enfin, la société espagnole n'a pas encore mesuré la dimension culturelle de ces vins. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas dans les kiosques de revues sur le vin. Apparemment, on ne publie que des suppléments à Noël pour dire bah tiens, voilà quel tel vin que tu pourrais prendre pour tel repas, mais il n'y a pas cette dimension. Et là, votre offre, elle est en train de répondre parfaitement à cette dimension culturelle que le vin prend progressivement. Aujourd'hui, être vigneron, c'est devenu cool, mais c'est vrai que c'était pas si cool que ça il y a peu de temps. Tout ce qui tourne autour du vin devient un vrai phénomène, et ça c'est plutôt sympa.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En effet, il y avait on voit en effet sur des pays qui ont des décalages par rapport à ça. Je vois qu'il y a un moment en France, en effet, les gens voulaient des listes. Vous voulez des listes de vins à acheter avec le domaine, le nom. Aujourd'hui, je pense pas que les gens aient trop envie qu'on leur dise exactement, voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Par contre, ils ont envie d'apprendre. Donc, il y a beaucoup de livres d'apprentissage, voilà, où on apprend les techniques de vinification, où on a des histoires ou des portraits du vigneron. Ça, les gens aiment bien parce qu'ils ont, voilà, ils aiment bien se former. Et ils préfèrent qu'on leur raconte, voilà, des histoires, sur des régions ou sur des personnes, plutôt que juste une liste avec des classements et des notes. Même si ça peut être pratique, hein, pour certaines personnes, des fois pour acheter du vin, on a moins envie d'avoir ça, voilà, d'avoir une liste de vin en cadeau ou sur sa table de chevet.
Et justement, vous avez dans la gamme toute une série d'affiches qui portent sur le côté apprentissage. C'est même un des axes dans le site. On trouve la rosace des arômes du vin dont je parlais tout à l'heure, mais aussi un super joli schéma sur les accords vin et fromage. Donc, alors je l'ai pas dans le détail en tête, mais je suppose que vous dites qu'on peut boire du vin blanc avec du fromage. Je le vois même sur l'image, qui est un des thèmes qu'on défend beaucoup ici. Il y a aussi une affiche sur les cépages et leurs arômes dominants. Donc là, on a la liste de tous les, enfin, il y a une trentaine les principaux cépages, et elles sont clairement affichées comme carte d'apprentissage, en fait, de découverte par soi-même les choses qu'on doit savoir quand on s'intéresse au vin.
Ouais, exactement. Nous, on avait commencé vraiment avec ce côté carte, et ça reste évidemment quelque chose de très central dans notre activité. Et après, on a sorti quelques affiches sur l'apprentissage et qui ont beaucoup plu, qui plaisent beaucoup, voilà, chez les cavistes ou chez les vendeurs. C'est vrai que ça sort un petit peu de l'ordinaire. Les gens des fois préfèrent aller sur ces choses-là. On en a sorti une un peu plus délire aussi sur le vin et yoga.
Ouais.
Les positions de yoga à faire avec chaque vin à déguster. C'est pas la plus sérieuse.
Mais c'est la plus humoristique, effectivement. Elle existe aussi en version bière.
C'est un peu la plus humoristique, mais les gens aiment bien. Voilà, ça. Il y a aussi c'est l'idée des affiches des alcools. Nous, on aime beaucoup aussi les vieilles publicités des alcools. C'est plutôt humoristique. Bon, voir aujourd'hui, on n'imagine pas ça ressortir sur une publicité des années où il n'y avait pas de loi 20. C'est vraiment un peu roue libre. Mais elles sont drôles quand on les voit. Là, on a une affiche. Alors, c'est pas nous qui l'avons dessinée, mais on l'a rééditée. C'était une publicité du ministre de l'Agriculture français en 1936. Il fallait vraiment, voilà, fallait relancer l'agriculture et l'économie. Et l'accroche, c'est buvez du vin, vivez joyeux, avec un couple qui marche dans les vignes en forme d'hexagone. Et c'est voilà, c'était une campagne payée par l'État français. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ces affiches, ça nous montre voilà ce qui change évidemment dans les mœurs, dans la communication. Voilà, aujourd'hui, c'est très compliqué évidemment impossible évidemment de tenir ce genre de chemin.
Je confirme, on l'a sous les yeux, elle est vraiment très belle, très colorée cette affiche, buvez du vin, vivez joyeux. On va déguster un vin, tu sais, c'est notre habitude. On a servi un vin qu'on a paradoxalement jamais chroniqué et dégusté dans l'émission, c'est la cuvée La Terre à Boire. Figure-toi, il en reste. La cuvée La Terre à Boire qu'on a vinifiée en 2000, c'est un millésime 2020, vinifiée par l'ami Philippe Viette, vigneron en Beaujolais. Et donc, c'est un vin d'appellation, pour faire un clin d'œil à notre invité de l'épisode précédent sur l'IADAO, Beaujolais. Et donc, c'est une belle cuvée La Terre à Boire. Et qu'est-ce que tu penses de ce vin aujourd'hui, même un an après, Laurent?
Moi, je suis bluffé par la gourmandise, toujours le côté très fruité, très très accessible. Évidemment, hein, on est sur une appellation Beaujolais, c'est du Gamay, c'est un vin facile à boire. Mais j'avais peur effectivement que un an après, bon, on est un peu perdu, que ça soit moins sympa. Mais en fait, il y a encore énormément de fraîcheur, de fruits, de ce côté petit fruit, comment dire, acidulé. Et je confirme que c'est toujours un vin très plaisant pour l'apéro, là, typiquement.
Il a bien bossé. Oui, pour l'apéro, je suis d'accord. Et même pour les barbecues. Moi, je l'ai testé sur les premiers barbecues de l'été, là. C'est tellement gourmand et facile à boire que ça fonctionne très bien. Voilà, petite auto-promo pour la cuvée La Terre à Boire. Vous pouvez commander si ça vous intéresse. On ne pousse pas à la consommation. Sinon, on la boira. Acheter, on vous dit tout de suite qu'on la boira tout seul.
Au Wine Therapy.
Et vous pouvez la trouver également au Wine Therapy. Jules, c'est quoi toi tes vins, tes domaines de prédilection? Tu as des petits coups de cœur? Parlons un peu de l'œnophile que tu es forcément.
Alors moi dans les régions vins, moi j'aime bien les régions assez vastes où il y a beaucoup de choix. Moi j'ai la Loire, ça reste quand même alors c'est pas très original de dire ça, mais c'est quand même une région qui m'a toujours géniale par rapport à sa diversité,
magnifique la Loire,
son accessibilité aussi, hein. C'est vrai que c'est des régions, mine de rien, nous quand on a commencé dans le vin, on était étudiants, donc quand t'es étudiant, quand même il y a quand même une dimension prix qui est quand même importante. C'est-à-dire que nous, les premières fois où on allait le premier salon qu'on a fait, bon, c'est un peu le classique, comme beaucoup de jeunes, mais c'est le salon des vignerons indépendants, parce qu'il y a des pubs partout et c'est gratuit, et on te dit que tu vas pouvoir boire plein de vin. Et là, on arrive, on voit les prix, on découvre un peu les prix du vin, et on n'avait pas, c'est pas ce qu'on achetait quand on était étudiant, on mettait pas beaucoup d'argent dans le vin. Et là, on découvre, voilà, des bouteilles à 15, 16, 17, 18, hein, quand on est étudiant, et qu'on voit que c'est par caisse de 6, on fait le calcul, on fait, ouais, je vais peut-être pas en prendre, d'être en prendre mille, donc voilà, donc évidemment, naturellement, je pense qu'on se dirige vers des régions, voilà, où il y a quand même des vins qui sont assez accessibles, et je pense que voilà, la Loire, le Languedoc, quand on est jeune, ça, pour les amateurs de vin, ça reste des régions qui sont super intéressantes. On va pas tout de suite en Bourgogne, hein, faut attendre un petit peu.
on va plus y aller en Bourgogne.
Et en fait, c'est ça, c'est que plus on avance dans le temps, plus les prix montent. Donc, on vient d'un truc, c'est toujours demain.
Ça reste un peu.
Mais en tout cas, voilà, moi, la Loire, j'adore. Je trouve plus précisément dans une région qui, du coup, a une histoire un peu pareille. On parlait du Beaujolais, qui est magnifique. Il y a aussi le Muscadet, qui a une histoire très compliqué, mais qui aujourd'hui on révèle ses terroirs et ses vins sont dans des restaurants étoilés dans le monde entier. Mais en France, aujourd'hui encore, quand on dit muscadet, les gens, certaines personnes...
Ouais, ils tordent le nez un petit peu, ouais.
Froncent un peu les sourcils. Tu goûtes des trucs, voilà, de Luno Papa, Bretodo, ils flinguent plein de grands vins blancs à l'aveugle. C'est incroyable. Et pour des prix, au final, qui sont relativement corrects, si on les compare à des très grands vins blancs d'autres terroirs. On a eu la chance aussi de faire des vendanges chez des amis du domaine breton, voilà, qui est aussi un super domaine. On découvre plutôt les quatre derniers francs. Loire, très belle région. Languedoc aussi, c'est une région en ébullition qui redécouvre aussi ses terroirs. Et il y a plein de jeunes qui s'installent. Donc c'est, voilà, je dirais que c'est deux grosses régions très intéressantes. On parlait de l'Espagne. C'est aussi un pays qui est en grosse émergence. La Catalogne, ça bouge énormément. Ça arrive beaucoup là, on les a quand même dans les restaurants français, ça commence à arriver dans les bars à vin. Il y a une grosse tendance aussi vers nature, vers biodynamie. Donc, des choses très intéressantes parce que ça nous change un peu de nos cépages. Donc ça nous donne d'autres choses, voilà, d'autres horizons. Et après, sinon, un vigneron coup de cœur. Alors c'est un peu un vigneron, n'est pas très lié à notre activité de carte, parce que c'est un vigneron qui, lui, n'a pas vraiment de frontières. Je sais pas si vous connaissez le travail des chiens du port de la Lune.
Oui.
Qui sont basés à Bordeaux, Laurent-Borde.
C'est des voisins pour vous, oui.
Voilà, et donc c'est un vigneron qui n'a pas de vigne, c'est un vinificateur qui achète du raisin dans toute la France, mais qui achète du raisin évidemment à des adresses. Il achète pas sur internet, il achète évidemment à des très bons vignerons et il sélectionne son raisin et il s'amuse justement à tout casser. Là, vous étiez avec l'INAO, alors là on est à l'opposé. Il fait des assemblages. Il va faire un assemblage de Syrah avec du blanc de Bourgogne. Enfin voilà, il a aucune limite et il se donne des choses vraiment magnifiques. Il se donne aucune limite dans les assemblages ou dans les régions et il s'éclate. Et je trouve que ça ouvre aussi des sujets sur la vinification. C'est vrai qu'en France, on est très, il faut avoir des vignes et faire son vin. Acheter du raisin, c'est un peu encore, c'est un peu tabou. Et on se rend compte que dans certains pays et même en France maintenant, hein, avec des chais urbains tout ça. Il y a des personnes qui se disent vraiment vinificateur et c'est déjà un métier assez compliqué. Et ça peut être un beau métier aussi, et voilà, d'acheter des, tant que c'est des bons raisins qu'on achète.
Oui.
Ça peut être intéressant.
Il y a une vraie, effectivement, c'est deux philosophies différentes, hein. Nous, on a cette tradition de valoriser le vigneron qui produit ses raisins et qui accompagne ses raisins et qui produit ses
raisins. Tout le long de la chaîne.
Tout le long de la chaîne, parce que, c'est un travail qui multiplie les compétences et qui est donc, pour moi, est très, très, très impressionnant. Mais il y a des pays où, effectivement, la tradition, c'est plus de laisser un viticulteur faire son boulot et puis après d'acheter ses raisins et il y a un vinificateur qui prend le relais. C'est vraiment deux approches différentes.
Mais c'est vrai que les approches différentes, moi je comprends en effet la dimension d'une famille qui est sur un lieu depuis des décennies, c'est fort évidemment, ils connaissent leur vigne, ils se souviennent de tous les millésimes, mais moi je suis pour garder ça, hein. C'est magnifique, mais c'est intéressant de voir aussi d'autres personnes.
Ah oui, tout à fait.
Je pense que encore une fois, c'est aussi des questions d'argent, hein. les jeunes qui s'installent et qui achètent du raisin, c'est parce qu'ils n'ont pas les terres, ils seraient ravis d'avoir des terres. Mais au début, c'est un peu plus simple d'avoir plutôt du matériel et d'acheter du raisin en fonction des opportunités que de vraiment avoir des hectares qu'il faut des fois planter, qu'il faut des fois... Voilà,
bien sûr. Moi, j'aime beaucoup le travail de Laurent, là, au chez du Port de la Lune. Après, la question se pose du comment j'exprime le terroir quand je n'ai pas produit moi-même les raisins. Bon, c'est des débats sans fin sur le sujet.
Est-ce que c'est la question ou est-ce que la question, c'est d'abord faire un beau vin? C'est des vins d'appellation?
Non,
il y a pas de puisque
tu vinifies hors appellation. Enfin, tu vas chercher tes raisins, tu les apportes à Bordeaux et donc voilà.
Il y a vraiment zéro appellation. Après, par contre, il n'est pas toujours dans une provoque énorme dans les cépages. J'ai plus en tête. Il y a quand même des cépages qui, il me semble qu'il y a des monocépages. Mais après, en effet, la dimension terre, il faut qu'il l'a quand même évidemment, même sur certains assemblages ou des monocépages. Par contre, je pense que lui, il est plus dans une dimension de création.
C'est une démarche artistique.
Exactement, c'est vraiment une démarche. Et justement, il l'a mis parce que il a une clé qui s'appelle Canon. Et en fait, Canon, il le définit comme le canon dans la chanson. C'est-à-dire des personnes qui chantent à un moment différent. Et du coup, il écrit que les cépages, c'est un peu ça. Puis là, justement, il a beaucoup de métaphores avec justement le côté artistique. Et voilà, comme une peinture où il va venir, en fait, moi, je trouve ça démarche assez intéressante. Et à la dégustation, je trouve que ça marche très bien.
Ouais, je confirme. Moi, j'ai vraiment été séduit.
Je rebondis sur le fait que tu parlais de prix pour signaler que les affiches, elles sont à des prix qui sont quand même, somme toute, tout à fait abordables. 29 euros pour la plupart. Les livres, j'ai pas le prix sous les yeux, mais c'est pas non plus des livres hors de prix. Voilà, et c'est des beaux produits. Il y a également, j'ai l'impression que c'est plus récent, mais tu vas peut-être me corriger, le carnet de dégustation, 200 pages plus livre de cave. Et donc là, c'est une sorte de cahier dans lequel on écrit et on consigne un peu ses impressions, ses souvenirs de dégustation, c'est ça?
Ouais, exactement. Nous, on s'est rendu compte qu'en dégustation, ça faisait beaucoup de différence quand on essayait d'écrire vraiment ce qu'on ressentait. En fait, ça fait vraiment un travail un peu plus fort, et le fait d'écrire, ça le fixe un peu mieux. Et c'est un bon exercice, donc c'est des fiches pré-remplies. On va mettre l'intensité, le nez, la robe, combien coûte la bouteille, avec qui on l'a dégusté, avec quoi on l'a mangé. Et donc voilà, c'est pour des personnes qui auraient envie de garder ça en souvenir. Alors là, nous, on n'est pas toujours là avec notre carnet à marquer tout ce qu'on voit. Il y a des moments sur les soirées de dégustation où c'est un peu plus le thème, ou sur un salon, ou sur une visite de domaine, où on a envie de se souvenir. Bon, il y a la photo, mais souvent la photo elle finit au fond de toutes les photos. Et là, voilà, il y a cette idée de
motif
de dégustation. Et surtout, après, un côté livre de cave, il y a des personnes là qui s'intéressent de marquer ce qu'ils ont en cave et qui se souviennent, voilà, le vigneron m'a dit de goûter dans 5-6 ans. Donc se mettre un peu des dates et de savoir un peu ce qu'on a en cave pour avoir une vision de tout ça.
C'est un peu un contre-pied au monde d'Instagram, même si vous êtes présent évidemment sur Instagram et on voit des très belles images, voilà, ça fait plaisir aussi le retour de l'écrit et du papier. Il a jamais vraiment disparu, mais en tout cas sa mise en valeur de cette façon là à la fois un peu historique et qui sent un peu le passé et en même temps qui est complètement du présent. Je vais la signaler avant de l'oublier, mais il y a aussi une collaboration, il y en a peut-être d'autres, mais là j'en ai une à l'esprit, c'est une affiche dessinée par l'ami Michel Tolmer, qu'on a eu le plaisir de recevoir dans ce podcast. Apprenez le geste qui sauve les vignerons, c'est une affiche assez connue, hein. C'est l'épaulé jeté en deux images, donc le personnage qui prend le verre et ensuite qui évidemment le boit, une affiche signée Michel Tolmer. Donc ça, c'est une collaboration entre vous, j'imagine.
Alors là, c'est vraiment plus une affiche de Michel. Nous, on la revend, en fait.
D'accord.
On l'achète et on la revend. C'est une affiche assez culte, recherchée par pas mal d'amateurs.
Vous l'avez réédité, en fait.
Ouais, alors en fait, c'est justement le domaine breton qui l'a fait. Eux, ils l'ont fait ensemble, ils l'ont fait en collaboration.
D'accord.
C'était, en fait, à l'origine, c'était une pub, enfin une sorte de pub, une affiche de promotion pour le domaine breton qu'ils ont fait, ils ont fait ensemble. Et donc, c'est eux qui l'impriment et qui nous la revendent, et nous, on les distribue. Mais oui, c'est une affiche
mythique.
C'est une affiche culte des francs buveurs, et en général, ça donne une bonne idée de la cave, ou du bar, ou du resto qui a cette affiche. Voilà, c'est un bon club, en général.
Comment vous choisissez le prochain thème de l'affiche? Pendant que nous, de notre côté, on va verser dans des verres le prochain vin. Et ça va nous emmener vers les futurs projets. On a vu donc émerger dans la gamme des affiches sur les spiritueux. Il y a le livre dont tu parlais, Le Tour du Monde en 80 verres. Donc c'est ça l'orientation. Évidemment, continuer sur le vin, les territoires. Donc tu as bien noté que Laurent t'a commandé un atlas de l'Espagne.
Avec plaisir.
Mais comment, tu vois, par rapport à une question comme celle-là, vous vous dites quoi? J'imagine que vous êtes comme nous avec les thèmes d'émission, vous avez une liste infinie, et comment vous faites l'arbitrage? Vous vous dites, ça va intéresser les gens?
En fait, c'est-à-dire que dès que quelqu'un nous en parle,
c'est écrit dans un coin de la tête.
Et en fait, c'est écrit dans un coin de la tête, on va évidemment l'écrire, on va en parler. Et en fait, on se dit, mais attends, si quelqu'un nous en a parlé, c'est que cette personne, elle est intéressée, c'est pas la seule, c'est pas possible. Une personne ne peut pas être la seule.
C'est Laurent Delceau est unique. Hein.
Voilà. C'est Laurent qui est unique, peut-être. Mais par contre, si jamais on entend ça une deuxième fois, là, ça va commencer vraiment à se dire, attends, là, il y a deux personnes différentes qui nous ont dit qu'un livre sur les vins espagnols, ça pourrait être intéressant. C'est quand même le premier vignoble au monde. Donc, c'est pas non plus complètement fou. De se dire que ça peut être intéressant, et après on va l'étudier, et après nous on peut évidemment pas faire plusieurs livres la même année ou plusieurs suites, donc on va évidemment essayer de composer pour voir comment ça peut rentrer. Après on va voir aussi avec des partenaires qui sont intéressés, alors on va chercher des personnes qui peuvent être intéressées par ce sujet et voir si elles peuvent déjà s'engager un petit peu sur la distribution.
Vous en parlez à vos revendeurs clés, vous appelez la librairie gourmande, voilà, vous leur dites, est-ce que vous choisissez entre les vins lituaniens, les vins espagnols, qu'est-ce que vous préférez?
Ça peut être ça, en effet. Et par exemple, pour prendre l'exemple de la librairie gourmande, c'est vrai que les libraires et les cavistes sont des personnes qui ont beaucoup de retours. Enfin, il y a beaucoup de gens qui leur demandent, des choses, et donc, pareil, quand il y a plusieurs personnes qui leur remontent la même chose, bah, ils commencent à se dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc c'est pas mal en parlant avec le revendeur, en parlant avec des gens, et en observant un petit peu, oui, en effet, ce qui peut manquer pour un certain public ou pour vraiment. Des fois, par exemple, c'est un hasard, hein, on tombe sur une vieille carte. Là, on est tombé sur une vieille carte du parcellaire de Jerez, justement. En Espagne. La carte est absolument magnifique. Alors, c'est une carte comme les climats de Bourgogne, il y a plein de petites taches. Et là, on s'est dit, mais il faut la faire. Alors, du coup, des fois, c'est juste parce qu'elle est belle et qu'on a une source, parce que des fois, c'est ça le plus dur. Du coup, après, on étudie le fait de faire une carte des parcellaires de Jerez. Bref, c'est quand même bien geek, mais pourquoi pas, en fait, pourquoi pas. Voilà, des fois, c'est aussi la beauté d'une carte, quand on trouve une source qu'on trouve intéressante. On va quand même demander s'il y a des gens qui sont intéressés, évidemment, pour travailler là-dessus.
Et donc, concrètement, le qu'est-ce qu'il y a au line-up, là? J'imagine que vous êtes déjà en train de travailler sur la rentrée et la fin d'année, parce que je suppose, notamment les livres. Enfin, ce que vous faites sont souvent achetés pour faire des cadeaux, j'imagine. Faites des pères, faites des mères, Noël.
C'est très acheté pour les cadeaux.
Alors nous, on t'appelle après la fête des pères, après la fête des mères et à 6 mois de la fin d'année. Hein. Désolé pour le non timing, mais les gens peuvent écouter à tout moment.
Exactement. Nous, pour la fin d'année, on a une réédition de notre livre, de notre premier atlas des vins du monde, qui va sortir là en septembre. En fait, c'est un livre qui est sorti en 2017, donc il y a quand même, ça fait quand même 5 ans. Donc on a remis à jour des chiffres, on a remis à jour certaines cartes, on a rajouté aussi 100 de pages. Donc on va être sur un gros bébé qui va faire maintenant 300 pages et qu'on veut toujours. Vraiment incontournable pour un amateur de vin. Donc ça, on est sur une réédition, donc c'est des ajouts de pages et de la mise à jour de contenu. Et après, nous, ce qu'on aimerait beaucoup faire, c'est aller encore plus sur le terrain, aller visiter plus de régions, et surtout emmener les gens avec des vidéos, avec des choses comme ça. On aimerait arriver à créer un peu plus de contenu sur les différentes régions pour mettre un peu en vie ces cartes. Il y aurait toujours des parallèles, mais on aimerait amener un peu les gens sur le terrain. Et là, on est en train de travailler sur un gros projet. C'est-à-dire que le livre Le Tour du Monde en 80 vers, on aimerait beaucoup arriver à le faire, mais en série vidéo. C'est-à-dire aller rencontrer des producteurs dans aux quatre coins du monde pour présenter leur travail et en sortir tout un contenu vidéo, photo, qui pourrait être accessible par toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui sont intéressées par ça. Donc ça, c'est un gros projet, plus le terrain, pour aller voir un peu ce qui se passe aux quatre coins du monde.
Vous avez déjà une boîte de prod qui vous suit là-dessus?
Non, pour l'instant, on n'a pas de boîte de prod, mais on a un partenaire qui est très intéressé et qui pourrait nous aider à avancer là-dessus. Donc on avance déjà avec, et après on verra pour une boîte de prod. Si vous avez des contacts de boîte de prod,
un jour la carte des vins sur HBO, la série événement. Mais effectivement, la dimension audiovisuelle est presque naturelle. Animer ces cartes, ça pourrait être rigolo dans un but pédagogique. Même si honnêtement, le charme du papier et de ces affiches qu'on trouve maintenant de plus en plus souvent dans les lieux du vin, c'est incomparable. On va s'ouvrir un deuxième petit vin.
On l'a un peu ouvert.
Tu nous as servi quelque chose.
Oui, un autre de mes chouchous. Bon, alors, la thématique, effectivement, c'était Cabernet Franc, hein, puisque dans le précédent épisode, j'ai apporté un chinon. C'était un peu dans la thématique de Jules Bordelais. J'ai apporté un Montagne Saint-Émilion.
En Cabernet Franc.
En Cabernet Franc, un 100% Cabernet Franc.
C'est fréquent, ça, Montagne Saint-Émilion, un 100% Cabernet Franc?
Je saurais pas dire si c'est fréquent. J'ai pas 36 Montagne Saint-Émilion au bar. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup le travail de Pierre Bernaud, au château Beauséjour, en Montagne Saint-Émilion. Il fait des choses que je trouve, assez remarquables. J'aime bien sa cuvée Le Charme, que je vous ai pas apporté là ce soir, parce que pour moi elle était moins représentative de ce que je voulais démontrer. Le Cabernet Franc, ça peut être fantastique quand il est tout seul, mais là on est sur une cuvée qui s'appelle Habit Noir, et on est sur des très vieilles vignoyers qui ont plus de 70 ans de Cabernet Franc, et Et je trouve qu'il fait un travail
d'orfèvre
sur ces cabernets. Alors, on est vraiment sur un profil de cabernet franc différent de celui qu'on a goûté tout
mais
à l'heure.
Mais c'est ça qui est bluffant. Parce qu'en fait, on enregistre deux épisodes le même soir. Donc, ouais, je le précise voilà, quand même pour ceux qui écouteraient.
Secret de production.
qui n'en est pas un. Pour ceux qui écouteraient que cet épisode, voilà, la vérité, c'est qu'on a fait, il y a une heure environ, un épisode sur l'INAO où Laurent a déjà apporté un cabernet franc de Chinon, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a là aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui serait expert reconnaîtrait le cépage, mais on était sur quelque chose de très franc, très fruité, tranchant,
rafraîchissant, j'ai envie de dire. On n'a pas la même maturité de fruits. Hein. On a vraiment là quelque chose de très, très, très limite confituré. Hein. On a vraiment de la...
Avec un élevage, non?
Oui, il y a l'élevage. Ouais. Ouais. On est à Bordeaux quand même.
Ouais, ouais, c'est ça. On sent un peu le fût de chêne.
Mais c'est un élevage que je trouve très très bien intégré.
Très bien intégré.
Bon, on est sur un 2016, alors que sur le précédent on était sur un 2018. On n'est pas du tout sur le même profil, même façon de travailler les vins évidemment. Mais je sais que quand j'ai découvert cette cuvée, et il fait d'autres choses merveilleuses, hein, Pierre, j'ai vraiment voulu mettre en avant le travail qu'on pouvait faire sur du Cabernet Franc.
Magnifique, Habit Noir, c'est le nom de la cuvée, au château Beau Séjour, et le vigneron s'appelle Pierre Bernot, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement élevé pendant 2 ans. Hein.
Toi qui es bordelais... Jules, dans ta région proche, là, tu vas où acheter ton vin? Tu es plutôt entre deux mers, montagne Saint-Émilion, tu vas...
J'avoue que je suis pas un très bon bordelais dans ma consommation de vin.
Encore une question de moyens.
Bon, bah non, oui, peut-être. Non, c'est honnêtement, c'est pas. Ouais, je m'éclate plus dans d'autres régions, vraiment. Il y a des choses qui bougent hein, évidemment à Bordeaux, heureusement il y a pas mal de domaines qui ont compris un petit peu que voilà, on avait passé une certaine époque à Bordeaux et il y a des choses qui sont très bien heureusement maintenant à Bordeaux et ça bouge hein. mais je vais pas être le premier consommateur de Bordeaux. Moi, je suis un gros amateur de vin blanc, j'adore vraiment les vins blancs. Mmh. Donc c'est pas vraiment une grande terre de vin blanc. Après sur des rouges il y a quand même des belles choses hein. on peut quand même vraiment trouver des belles choses justement, les appellations autour de Saint-Émilion, comme Fronsac, par exemple, sont un peu moins cotées, un peu moins chères. Et franchement, encore une fois, ils sont pareils. Du coup, il y a des jeunes vignerons qui peuvent s'installer et qui arrivent avec des nouvelles techniques de vinification, des nouveaux objectifs. C'est toujours ces appellations là qui sont assez intéressantes.
Un peu comme toi et tes camarades dans le monde de l'édition, pardon, Laurent.
Non, c'est comme, bon, enfin, bon, toutes les côtes de Bordeaux, il se passe quand même pas mal de choses. On parle de Saint-Émilion, mais bon, les satellites de Saint-Émilion, il y a aussi un travail. Enfin bon.
C'est quoi les satellites de Saint-Émilion?
Bah, typiquement, montagne, puis Seguin, Saint-Georges, et j'oublie toujours. Aide-moi, Jules, non? Non, puisque tu n'es pas très
non,
Bordeaux.
Non,
pour ma question.
Bah pourtant, la cartographie de Bordeaux.
Ah oui, c'est une question que j'avais envie de te poser. Est-ce que, du coup, vous êtes des ultra geeks de la carte de chacun des terroirs? Ou est-ce que vous travaillez graphiquement sur un thème et puis après, vous oubliez comme tout le monde, quoi?
Ah, c'est-à-dire, est-ce qu'on se rappelle le terroir qu'on a fait?
Ouais. Quand tu as travaillé sur une carte pendant, je sais pas combien de temps ça te prend de travailler sur une carte, sur une affiche. Est-ce qu'à la fin, tu connais tous les noms par cœur?
Honnêtement, non, c'est impossible. Et par exemple, alors les appellations, on est quand même pas mal, c'est-à-dire qu'on peut arriver à les replacer tout ça, mais là, il y a quand même sur les cartes des lieux dits, il y a des noms...
Magnifiques.
Il y a des noms un peu moyenâgeux, mais qui sont complètement, sont complètement dingues. Des fois, même dans l'orthographe, tu parles du vieux français, donc t'as l'impression qu'il y a une faute. En fait, non, le mot, c'est que c'est vraiment comme ça. Quand on a fait la relecture des climats de Bourgogne, par exemple, c'était vraiment un travail hyper minutieux d'arriver à relire des climats qui avaient des noms pas possibles.
Non, c'était Lussac, le dernier. Voilà.
Il a cherché.
Le dernier,
son deuxième cerveau.
Le dernier satellite avec ma mémoire artificielle
numérique
au bout de ma main. J'ai retrouvé Lussac.
Merci infiniment, Jules Gobert-Turpin. Merci d'avoir été notre invité. Puis, franchement, bravo pour ce travail. Félicite aussi tes camarades de jeu parce que c'est à la fois un très beau projet qui a du sens, qui parle, je pense, à tous les amateurs de vin qui aide à déchiffrer un petit peu ce monde, mais surtout qui fait des beaux produits, quoi, qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie d'offrir. Et voilà, j'imagine que peut-être des gens qui nous écoutent auront envie d'acheter ces affiches ou ces livres. Je pense que pour quelqu'un qui aime le vin, je vois pas comment on peut tellement se tromper en lui offrant une de ces belles affiches voilà, la carte d'un terroir par exemple, les climats de Bourgogne, pour les fous de Bourgogne, on en connaît.
Encore faut-il connaître les goûts de vinicole de
voilà, la carte des vins de France. Moi j'ai déjà offert l'atlas la route des vins de France là chez quelqu'un qui est juste un amateur de vin lambda. Il était emballé, il était ravi, il a passé toute la soirée à feuilleter, à s'émerveiller des cartes. Donc voilà, bravo les amis.
Eh ben merci à tous les deux. Et du coup, on se croisera sur les routes des vins espagnols.
Je suis impatient.
Si le projet prend vie, tu nous appelles, hein, tu nous préviens et on fait une émission sur l'Atlas des vins d'Espagne et puis on en profite pour déguster quelques vins espagnols parce qu'il y en a des très très beaux. Merci
avec
Jules.
Plaisir.
Merci Jules.
Merci à vous deux.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Ciao. Bon, c'était un super échange. Moi, j'aime tellement leurs produits. J'étais content qu'on puisse en parler.
Tu aimes leurs produits. Mais il se trouve que je suis enthousiaste.
Excuse-moi,
aussi.
On fait aussi de la radio avec de l'enthousiasme, cher Laurent.
Tu sais très bien que je suis
comme pour
aussi,
le vin.
On portait cette idée ensemble. C'est clair.
Et franchement, tu m'as bluffé avec cet habit noir. C'est pas du tout.
Habit noir.
J'ai jamais goûté un Cabernet Franc qui avait cette dimension-là.
Il y a une profondeur. Il y a quelque chose d'assez chouette.
Ouais. Je connais des gens qui diraient toi, t'aimes le bois. Parce que quand même, hein, c'est quand même, on sent le fût de chêne.
On sent le fût.
Mais c'est pas excessif, c'est pas écœurant, caramel.
Il y a un élevage de 2 ans sur l'Iffine, en fût de chêne. Bon. Là, il faut se dire aussi ce qu'il est, c'est que j'ai ouvert la bouteille il y a 10 minutes. On se laisse le temps et tu verras qu'effectivement les choses vont se poser un petit peu. Hein.
C'est un vrai vin de gastronomie, hein. ça se boit en mangeant quelque chose qu'on ne fait pas du tout là.
On a fait le grand écart entre la cuvée, la terre à boire sur un Beaujolais.
Le glouglou, le vin de copain.
Voilà, exactement. Et puis ce vin qui est pour moi un grand vin.
Oui, je suis d'accord. Je te rejoins là-dessus. Merci infiniment de nous écouter, d'être fidèles, parce qu'on le voit, le fil vrai fou, on le voit dans les chiffres, vous êtes un peu de plus en plus nombreux à nous écouter, et vraiment ça nous touche, beaucoup plus même que vous pouvez l'imaginer. On est très heureux et ravis de cet attachement, cette fidélité.
Et j'ai envie de dire évidemment que tous ceux qui passent au bar parce qu'ils écoutent La Terre à Boire tiennent particulièrement à cœur aussi, hein, ça fait vraiment plaisir.
On vous embrasse et on vous dit bye bye.
Au revoir.
Salut Laurent. Ciao.